Bonjour, vous êtes sur Transistor, le 104 FM. Au micro, nous sommes des services civiques en Finistère. Nous sommes en formation à la radio depuis 2 jours. Nous ne sommes pas des professionnels, mais nous sommes touchés, de près ou de loin, par la thématique des vécus LGBTQIA+. On vous a préparé une émission spéciale qui sort de l'ordinaire. Nous avons décidé de parler des vécus LGBT à travers la représentation et la fiction au cinéma. Et pour commencer, je laisse la parole à Marianne.
Alors, est-ce qu'un personnage queer a le droit un jour de vivre heureux, de tomber amoureux, de s'aimer et sacrilège de ne pas mourir à la fin ? À voir. Mais en gros, c'est la faute à l'histoire occidentale. Et surtout, la faute aux USA. Où il y avait le code ACE d'appliquer entre 1934 et 1968. En gros, impossible de montrer quoi que ce soit de queer à l'écran. Enfin si, mais il fallait que ce soit déguisé, sous-entendu ou puni, vu que c'est des menaces à l'ordre social, entre guillemets. Pour faire comprendre au public que les personnes sont LGBT+, les indices sont caricaturaux et renforcent les stéréotypes. C'est un problème moral ambulant, résolu très simplement. Les personnages LGBT+, sont réduits à des figures marginales, des méchants, des détraqués. Dans les séries ou films criminels, les thrillers par exemple, les persos ambigus sexuellement étaient soit antagonistes, soit victimes. Parce que dans ce code, la perversion sexuelle, charmant n'est-ce pas, est interdite. Même après la fin du code ACE, la fiction occidentale lie homosexualité et douleur. Brokeback Mountain a bouleversé, mais aussi lancé un genre. L'amour gay impossible, forcément tragique. Et depuis, les clowns s'enchaînent. Même schéma, même destin. Dans Call Me By Your Name, sorti en 2017, la beauté de l'amour est vite rattrapée par des contraintes sociales. Et aussi des dynamiques un peu malsaines. Puis pas ouf accessoirement la représentation, hein, éloge de pédocriminalité et romantisation des relations de pouvoir. Un adolescent qui tombe amoureux de son professeur parce que c'est un dieu vivant. On sait pas s'il veut être lui ou être avec lui. On n'est pas obligé d'être une grosse vicose pour être homo, ni de kiffer des mecs plus âgés d'ailleurs. Moonlight, un film sorti en 2016, lui, parle de masculinité noire et d'homosexualité. Hyper important, mais toujours avec ce poids, cette lutte. C'est le tragique nécessaire. Et quand une fin heureuse pointe le bout de son nez, c'est après 1h45 de coming out difficile, de rejet, de honte, de peur, de discussions familiales hardcore. C'est un peu comme une forme de chantage émotionnel en fait. Regardez ce que ça coûte d'être queer. En 2016, le phénomène « Bury Your Gaze » explose. 10% des personnages LGBTQIA+, meurent, alors qu'ils représentent seulement moins de 5% des personnages à l'écran. En plus, si c'est des femmes, des personnes racisées, des trans, la note est encore plus salée. Pourquoi c'est si compliqué d'imaginer une personne queer juste heureuse, qui ne soit pas résumée à sa différence ou à ses traumas ? Montrer les blessures, c'est important, c'est vrai, je suis d'accord. L'histoire LGBTQIA+, est faite de lutte, de discrimination, d'effacement. Ne pas en parler, ça serait nier cette réalité. Mais en faire un passage obligé, une condition pour exister à l'écran, là ça devient chiant. Dans la saison 1 de la série Sex Education, sortie en 2019, j'adore la relation entre Eric et son père. Le daron n'est pas homophobe, mais protecteur. C'est déjà plus agréable à regarder. Il apprend de son fils le courage d'être soi, le vrai. Et avec justesse, Eric dit à son père, avant d'aller maquiller à son bal de promo, que « quoi qu'il arrive, j'aurai mal. Autant être moi-même, non ?» Bien dit en fait. C'est pas « j'aurai mal à cause des autres parce que je suis gay et que je joue avec les codes de la féminité », mais « j'aurai mal parce que je me laisse vivre pleinement et que souffrir un peu vient avec, c'est le jeu, comme toute vie rondement menée. » Un peu comme dans Glee, où il y a la relation de Kurt, cette star, avec son père garagiste un peu balourd. Et je dis balourd et pas frontalement homophobe parce que bah juste, il y comprend que dalle, en fait. Pourquoi son fils danse sur du Britney et, je cite, pourquoi il s'habille comme s'il avait une usine de chocolat, en mode Willy Wonka. Mais au fil des épisodes, leur relation devient plus complexe, faite d'échanges sincères. Ils apprennent l'un de l'autre, c'est léger, drôle, et pas si balourd, finalement. C'est une évolution qui commence pas si mal, en plus, et spoiler, avec une fin heureuse, enfin. En 2016, l'asso GLAAD a appliqué le test de Vito Russo à 23 films dits inclusifs. C'est le Bechdel test des queers, quoi. Pour passer le test, il faut un personnage LGBTQIA+, dont le rôle ne se limite pas à son identité, et qui a un vrai impact sur l'intrigue. Résultat, seulement 9 films sur 23 ont réussi. Même dans des œuvres dites progressistes, les persos queer restent secondaires, symboliques, souffrants. Et pour les personnes trans, le bilan est encore plus moche. En 2021, l'étude Représent Trans a analysé plus de 670 films entre guillemets trans. 44% sont des drames, 39% sont des documentaires. Autrement dit, les récits de fiction positifs, légers, joyeux, sont quasi inexistants. Et quand ils existent, c'est rarement du point de vue des concernés. Avant de vous parler du cisgaze, qu'est-ce que ça veut dire cisgenre ? C'est tout simplement sentir du même genre que l'on s'est vu attribuer à la naissance. Et le cisgaze, c'est un regard cisgenre qui construit les récits trans selon ses propres peurs, ses fantasmes et ses idées. Résultat, des personnages trans seuls, en conflit avec leur corps, confrontés à des discriminations extrêmes ou réduits à leur transition comme seul moteur narratif. On les voit presque jamais exister, bosser, tomber amoureux, vieillir, sans souffrir. On ne voit pas que les personnes trans peuvent être soutenues, avoir des parcours heureux, découvrir avec joie leur identité. Pourtant, elle existe, et elle existe fort, et pas que dans les films, dans la vraie vie aussi. Ça donne des persos limités à leur sexualité, à leur rapport au corps. Maxime Garnery, qui prépare une thèse sur l'homonationalisme dans les séries télévisées états-uniennes à Paris 3, l'explique mieux. Il dit « Dans les années 90, les persos LGBT étaient des personnages secondaires, des compagnons de route du personnage principal hétéro. Ils n'avaient pas vraiment d'arc narratif à part leur coming out. Et l'absence d'intrigue les concernant. Ils étaient souvent les conseillers sur les questions romantiques ou sexuelles, comme si être LGBT leur donnait tout le savoir là-dessus. Puis au passage, ça rend le perso principal plus intéressant aussi. Hein. C'est son petit truc en plus d'avoir un pote gay, ça le légitime comme personne ok. Et en plus, c'est nickel. » Et justement, l'intimité des personnes queer, comment elles baisent, ça fascine les hétéros. Pourtant, personne n'a besoin de voir comment le beau gosse du lycée se tape la cheerleader, on est au courant. Par contre, allons-y sur les longs plans avec deux mecs ou deux meufs à poil, on veut tous les détails. Par exemple, côté lesbienne, c'est soit vu à travers le regard des hommes cis-hétéros, genre fantasmes, des meufs à poil et des scènes de cul avec des regards langoureux, tout en se plaquant contre un mur violemment, trop sexy. Soit voit l'échec en mode tragédie. À force, certaines finissent par croire qu'aimer une femme, c'est être condamnée à la souffrance et à la torture émotionnelle. Une pote à moi me parlait de la vie d'Adèle, qu'elle avait vue quand elle avait 13-14 ans. Je pense qu'on se souvient toutes et tous de la première fois qu'on l'a vue. Et la question c'est, mais qui baisse comme ça pour la première fois? Puis pourquoi la recherche de soi et de son identité pousse forcément à l'autodestruction? Ben ouais, bonne question. Je pense que c'est parce que la culture pop a peur. Peur que les femmes découvrent que la lesbianité, ça peut être chouette. Peur qu'on monte des relations queer équilibrées, peur qu'on sorte du drame, ou peut-être que ça fait juste bander les hétéros. Donc, pour trouver des récits de vie un peu plus joyeux, moi je vais piocher dans des biographies, des biopics, des histoires. Aussi, histoire d'écouter les personnes concernées, se raconter comme elles le veulent. Et j'ai deux recommandations, ou exemples d'histoires LGBT qui finissent bien. En tout cas, c'est des œuvres qui m'ont marqué. D'abord, celle de Patti Smith. Patti Smith qui dit, dans la première chanson de Horses, Gloria, « Jésus est mort pour les péchés de quelqu'un, mais pas les miens. » Elle ne s'est jamais explicitement proclamée icône queer ou féministe, hein, mais sa manière de vivre résonne tellement avec les personnes queer, c'est du baume au cœur, un mode d'emploi. Je conseille le documentaire Patti Smith, la poésie du punk, qui est plein d'archives, un peu galère à trouver, mais ça vaut le coup. C'est Patti Smith à 20 ans qui dégomme tous les codes, le rock hyper cliché, la poésie trop sage, la culture élitiste, le genre qui est hyper contraignant. Punk dans l'âme, elle positionne l'art comme une force politique et surtout la liberté comme une nécessité. Sa relation avec Robert Mapplethorpe, c'est de l'ordre du sublime. Robert Mapplethorpe, qui lui vient d'une stricte éducation catholique et militaire, avec une mère qui voulait le voir devenir prêtre, un père qui lui voyait dans un avenir de soldat. Enfin bref, j'en dis pas plus, à part que l'iconographie religieuse l'a beaucoup inspiré pour ses travaux. Sinon, autre exemple où on voit à l'écran des persos queer qui vibe, juste, c'est une série sur Arte. In My Skin, qui se passe au Pays de Galles, avec Bethan, 16 ans, lesbienne je crois, on s'en fout finalement. Bethan se marre avec ses potes et s'invente une double vie. Une mère super stricte, un père agent du fisc, catégorie ennuyeux à mourir mais aimant. Kaylee Lewillin, pardon si j'écorche son nom, la scénariste de In My Skin, puise directement dans ses souvenirs à elle pour mettre à l'écran une mère bipolaire, autrement dit, elle sait de quoi elle parle. C'est la vie d'adulte où tout est encore si intense, l'humour est potache, l'amitié ne se négocie pas et les histoires de cœur piquent bien comme il faut. Alors oui, c'est une série qui m'a fait pleurer, mais rien à voir avec les questions LGBT+. J'ai pleuré son bonheur, sa libération, sa vie banalement triste et pleine d'espoir. Parce qu'on veut de l'espoir. Ça peut être exaltant de se découvrir ou peut-être qu'il n'y a juste pas de grand déclic. C'est pas l'identité qui pèse, c'est le regard qu'on pose sur la recherche. Alors que non, c'est pas forcément dur de vivre comme ça. Ce qui est dur, c'est d'entendre qu'on n'a pas le droit d'exister autrement qu'en tragédie. Aujourd'hui, il est temps de faire de la joie un acte politique. D'écrire des personnages LGBTQIA+, qui vivent, qui aiment, qui rient, qui vieillissent ensemble. La barre est tellement basse. L'identité queer devrait pas être qu'un contexte. C'est pas un sujet en lui-même. Un élément parmi tant d'autres. Et si on y arrive, alors peut-être qu'on sortira enfin de ce cycle infernal où aimer, quand on est queer, rime toujours avec crever. À croire que la fiction ne supporte pas l'idée qu'on puisse vivre une vie queer, heureuse, stable, crédible. À croire que la joie queer, c'est un danger. Si c'est de la provocation de vivre heureux, tant mieux, tant pis. Allons-y gaiement. If you ask me one more question, I'm about to crash. If you ask me one more question, Vous venez d'écouter Crash Nilufer Yania de la série Une Masquine recommandée par Marianne. Avoir un personnage queer, ça nous aide à nous accepter et à s'affirmer, encore faut-il que cette représentation ne soit pas caricaturale. Je vais vous parler de différents films et séries qui mettent en avant les LGBTQ+. Heartstopper sur Netflix depuis 2022 est une façon moderne de raconter le vécu des personnes LGBTQIA+. La série Netflix, tout comme le livre, évite de centrer son propos sur la souffrance, le rejet et les violences. Charlie est un jeune homme harcelé au collège qui se fait à nouveau un nouveau camarade de classe, Nick. Nick est désigné comme l'hétéro rugbyman de l'établissement. Une amitié va naître et à la suite une histoire d'amour douce aussi. Cette relation amène les deux jeunes hommes à construire leur identité et s'affirmer ensemble. La série propose une représentation juste des formes d'homophobie subies sans en faire un ressort narratif tendu sur la destruction d'une relation amoureuse. C'est une image stéréotypée de l'homophobie. L'objectif de la série est de déconstruire les clichés et proposer d'autres représentations. L'entourage est également une ressource essentielle dans Heartstopper. Elle, l'amie de Charlie, qui a subi de l'harcèlement transphobe, va l'encourager à prendre confiance en soi, car elle a trouvé un entourage sain et queer dans son nouvelle école qui lui a permis de s'affirmer complètement. La série devient un espace de sécurité pour le public LGBTQ+, qui veut abandonner la crainte.
de voir se produire les mécanismes de représentation violente, comme nous l'a dit Marianne, l'histoire des personnages gays au cinéma et dans les séries a trop souvent été réduite à la menace d'agression homophobe, et qu'elle soit physique ou psychologique. Comme film récent, il y a aussi I Am Okay sur HBO depuis 2024, avec l'actrice Dakota Johnson qui joue Lucie, une femme de 32 ans. Ce film traite des complications liées au fait de se déclarer homosexuel plus tard dans la vie, avec la découverte de nouvelles relations. Après que Jane avoue avoir embrassé une amie pendant l'adolescence, Lucie lui dit ivre qu'elle pense qu'elle pourrait être lesbienne. Jane l'encourage à explorer ses sentiments. Le film utilise également l'amitié entre Lucie et Jane pour explorer les problèmes de codépendance. C'est un film qui demande à ses spectateurs de vérifier avec eux-mêmes comment ils se traitent et traitent les autres. Les films et séries qui abordent les sujets LGBTQ+, permettent aux personnes non concernées d'être plus présentes pour des proches concernés et d'éviter les maladresses face à une personne LGBTQ+. Ça ouvre aussi au questionnement et pousse à l'ouverture d'esprit. De retour sur Netflix, une série courte de 6 épisodes du nom de Feel Good qui met en valeur les lesbiennes hors des clichés. C'est une fiction semi-autobiographique qui décrit des personnages LGBTQ+, comme on en croise rarement à la télévision. George a du mal à accepter son changement d'orientation et Mae, Yael et une ex-junkie qui tente de canaliser son addiction. Derrière les situations cocasses, la série n'oublie pas de laisser une profondeur nécessaire et parvient à contourner les clichés. Les personnages ne se qualifient pas explicitement en tant que lesbiennes, laissant les étiquettes hors du narratif. Elles s'emparent aussi, chacune à leur manière, du sujet du mal-être et des névroses. Mae Martin et son co-scénariste Joe Hampson veillent à ne jamais faire de l'addiction un thème trop pesant. Cela ne veut pas dire que le sujet est traité avec légèreté, mal placé. C'est une version fictionnelle de leur vécu sans tomber dans la dramatisation. Pour conclure, je vais citer 3 autres films et séries. Orange is the New Black, c'est une série qui regroupe un ensemble de différents profils de lesbiennes, les butch, les lesbiennes rouges à lèvres, et les trans, où il est possible de se reconnaître et s'identifier. Avec chaque épisode, un focus sur un personnage dans les premières saisons. Sex Education, comme on en a déjà parlé, l'arrivée de différents personnages a donné aux scénaristes et aux spectateurs une occasion d'aborder plus en profondeur le spectre du genre et de la sexualité. Et pour finir, 120 battements par minute, c'est un film qui m'a énormément appris sur le sida durant les années 80-90 jusqu'à maintenant et la lutte des militants ACT UP Paris contre l'indifférence générale. Il a obtenu la Queer Palm et 6 Césars. Le film est accompagné d'une musique emblématique de Bronski Beat, Small Town Boy, que je vous propose d'écouter.
Hey!
Vous venez d'écouter Bronx City de Smatton Boy. On a dit plusieurs fois qu'il faut laisser les réalisateurs et les spectateurs concernés parler d'eux-mêmes du sujet. Donc je laisse la parole à une personne concernée.
Bonjour, je m'appelle Camille, femme trans. Aujourd'hui, on parle de représentation des personnes trans dans les films. Car depuis quelques années, les films sur les trans augmentent. Les genres cinématographiques les plus utilisés pour évoquer les transidentités sont le drame avec 44,1%, puis le documentaire 39,3%. En 2024, le film Emilia Pérez est titré de 3 titres à Cannes pour le prix d'interprétation féminine pour Carla Sofia Gascón, première femme trans à avoir ce prix. Elle porte un discours qui émeut la communauté LGBTQIA+. Elle a dit « Toutes les personnes trans qui souffrent tant, je veux que ces personnes arrive à croire qu'il est toujours possible de s'améliorer. Nous, personnes trans, inter, non-binaires, nous sommes tous contentes que nous soyons célébrés en tant que personnes. Dans les films, les parcours de transition sont majoritairement médicaux. Il existe 3 formes de transition, sociale, administrative, médicale. Je vais vous donner les définitions pour chaque exemple cité plus haut. 1. La transition sociale. Elle consiste à exprimer son genre autrement que selon les normes et rôles associés du genre assigné à la naissance. Comme l'utilisation d'un prénom d'usage, vêtements, habitudes de vie. 2. La transition administrative. Mais aussi des démarches légales, changement de prénom, de mention de sexe à l'état civil, et pour finir, la transition médicale. Cela peut comprendre des éléments médicaux, hormones, chirurgie, diverses, épilation, orthophonie. C'était la minute transition. Les modèles que vous avez eus, moi, je ne les ai pas eus. Mon modèle, c'est moi. Dans la vie de tous les jours, j'espère être un modèle pour les jeunes trans, non-binaires et inter. Ma première vision d'un personnage trans, c'était dans un reportage de 7 à 8. Je devais avoir 10 ans, puis j'ai vu en 4e le spectacle Pronom qui raconte la transition d'un mec trans. Le problème pour moi, c'est que les médias reste focalisé sur les transitions médicales, ce qui fait le buzz et les polémiques. Je pensais qu'être trans, c'était de faire une opération chirurgicale. Moi, j'inspire à faire une transition administrative. Pour la transition sociale, je l'ai fait rapidement. Mes amis, camarades, ne m'ont pas trop embêté sur ma transidentité. Il vous reste encore du temps à passer avec moi. Je vais vous raconter comment ça se passe dans mon cerveau. Mais quoi, Camille ? Arrête de parler des trans. On dirait que tu es obsédée par eux. Mais tu es trans, ma belle. Moi, trans, jamais de la vie, à cause des médias, toujours des médias, CNews, Figaro. Je vous dis mes dernières paroles, qu'à l'ascenseur arrive. Qu'à l'ascenseur arrive. Soyez toujours vous-même. Le temps passe vite, la radio aura atteint son quota trans.
Vous venez donc d'écouter une émission sur les vécus LGBTQIA+ et ses représentations dans le cinéma. Cette émission a été réalisée par des services civiques en formation à la radio. À bientôt sur Transistor.